Radio Bac, notre deuxième partie, avec notre invité aujourd'hui, le maire de Narbonne, M. Bertrand Malquier. On va évoquer un petit peu plus loin le Grand Narbonne, la communauté d'agglomération. Mais les chantiers sont tellement nombreux aujourd'hui qu'il y en a encore quelques-uns que je souhaiterais évoquer un petit peu. Alors, le pont des marchands, ça va être un feuilleton, parce que si on a bien compris, c'est un chantier qui va durer très très longtemps, avec diverses phases. Mais où en est-on aujourd'hui? Dans un récent conseil municipal, vous avez voté, je crois, des accords transactionnels. Où en est-on, monsieur le maire?
Alors, le pont des marchands, pour faire simple, nous avons un pont historique, l'un des deux seuls ponts habités en France avec celui de Landerneau. C'est un pont qui est aussi un cœur battant de la zone de chalandise commerciale de la ville de Narbonne. Et nous avons des problèmes de structure évidents. On a d'un côté l'ouvrage historique, l'ouvrage romain qui a 2000 ans, dont la propriété de la sous-face est contestée devant les tribunaux. Mais on a une réalité, c'est-à-dire une multiplication d'arrêtés qui ont été pris depuis une dizaine d'années sur du péril, sur de la menace imminente de mise en danger de la vie d'autrui. Et forcément, on a, par des experts diligentés par le tribunal administratif, fait le constat que pour sauver le pont des marchands, il fallait une maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire une personne unique qui puisse corréler l'ensemble des travaux, parce qu'il y a des très graves pathologies du bâti. En fait, pour faire simple, les rez-de-chaussée qui sont rentables économiquement ont continué à être exploités par les propriétaires, mais les étages ont été au fur et à mesure abandonnés, laissant l'eau s'infiltrer par des toitures délabrées ou l'eau remonter par capillarité. Donc de très nombreuses pathologies du bâti qui ont poussé certains à être dans des états de quasi-ruine.
Petite parenthèse, lorsque vous dites la sous-face, la propriété de la sous-face est contestée, c'est l'arche, les arches.
Voilà, l'arche principale, en fait, sur laquelle repose l'ouvrage public, qui est dit public par une décision du tribunal administratif, mais qui ne changerait, mais j'y reviendrai tout à l'heure. L'idée aujourd'hui, c'est en fait la préconisation des experts du bâtiment qui nous disent qu'il faut une coordination unique pour réaliser ce chantier, et ça doit être la puissance publique, puisque nous sommes éligibles à des aides, et parce que les travaux se chiffrent à plusieurs millions d'euros. Donc la puissance publique doit coordonner l'action sur la partie centrale, et donc pour ce faire, il faut que nous ayons la propriété de l'ensemble de ces immeubles sur la partie centrale.
D'où donc, cette volonté d'acquérir
c'est
l'ensemble.
C'est ça. Nous avons proposé, parce que c'est la loi nous oblige à déclencher une phase amiable avant de passer dans une phase d'expropriation dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique dite loi Vivien. Nous avons fait une phase qui est obligatoire, qui est le préalable nécessaire, une phase amiable. On n'a pas acheté de l'immobilier, c'est pas un achat simple. Aujourd'hui, on achète un protocole transactionnel, c'est-à-dire un accord qui concerne à la fois l'achat de l'immeuble, mais également des actions juridiques qui gangrènent l'immeuble. Quand les immeubles ont été mis en péril, il y a eu des actions judiciaires d'un propriétaire vers l'autre. Ça s'appelle en droit des actions récursoires. En fait, on cherche à aller chercher la responsabilité d'un autre. Donc, notre accord transactionnel est un prix qui englobe l'anéantissement de ces procédures. Donc nous achetons des immeubles qui sont purgés de ces recours et qui nous permettent eh bien, de pouvoir envisager la coordination. Donc quelques propriétaires ont accepté la transaction amiable et d'autres ont refusé. Ils avaient un délai. À partir de là, eh bien, nous avons déclenché une phase qui est une phase plus contentieuse, qui est d'expropriation. L'idée, c'est qu'en début d'année 2026, nous puissions nous retrouver propriétaires de l'ensemble de ces immeubles de la partie centrale pour pouvoir coordonner les actions de rénovation.
Avoir les mains libres.
Et à terme, l'idée, c'est que l'ensemble du pont des marchands soit totalement rénové. On commencera par les parties commerciales. Et ensuite, c'est une opération de logement aussi, puisque nous allons reconstruire, réaménager les étages pour en faire de l'habitat que nous conserverons. Ça sera de l'habitat privatif d'une foncière de la collectivité qui nous permettra bien de louer nous-mêmes directement les biens d'habitation. Et parce que c'est une opération immobilière d'habitat, nous avons des aides de l'État, notamment de l'ANA, mais pas que, et nous avons un prévisionnel de plusieurs millions d'euros avec des aides qui vont nous permettre de tendre vers un équilibre qui est compliqué, parce qu'il y a une dimension aussi patrimoniale, et vous le savez, Jean-Claude Jules, le patrimoine coûte cher, mais c'est aussi notre responsabilité.
Voilà, mais c'est aussi...
Concernant la procédure, excusez-moi Jean-Claude Jules, mais je préfère le préciser, même si elle n'intéresse que des avocats, que des professionnels du droit. Aujourd'hui, certains propriétaires, pour refuser d'accepter l'état de leur immeuble, se disent bien, nous allons contester la propriété de la sous-face. C'est un sujet qui sera tranché dans 10 ans, dans 15 ans peut-être, par les tribunaux, mais qui n'intéresse pas grand monde. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est la responsabilité de ces propriétaires et la responsabilité patrimoniale, remettre en état le poney marchand pour qu'il retrouve son lustre d'antan et qu'il soit le poumon économique de la ville de Narbonne.
Oui, c'est une sorte de sauvetage finalement.
C'est un sauvetage, nous sauvons la carte postale de Narbonne.
Alors restons sur la Robine et allons un petit peu plus en aval. Les berges de la Robine, là encore, alors du côté du théâtre par exemple, sont également en travaux.
Elles sont en travaux, la livraison aura lieu là d'ici quelques semaines. Nous sommes sur des phases de plantation avec des garanties par rapport à... Il y a eu quelques ratés là, de la part de l'aménageur au niveau des végétaux. Donc on est sur la finalisation. C'est une première partie qui va de l'arrière de la zone d'activité concertée, la ZAC du théâtre, jusqu'au pont du théâtre scène nationale. C'est cette première et longue partie qui prévoit en fait un cheminement avec une bande active pour les vélos par exemple ou ceux qui font du jogging et une bande de circulation piétonne touristique pour se promener. C'est une déambulation nouvelle. L'idée c'est de profiter au maximum et de mettre en valeur le canal de la Robine pour qu'il soit aussi un usage dans la circulation.
Cette voie sera sur l'ancien chemin de halage.
C'est ça,
c'est-à-dire tout près du canal. Donc, la proximité
directe sur le canal. Ça va nous permettre, depuis le centre-ville, de rejoindre le champ de Mars du Narbovia, du musée de la Romanité. Ça va permettre, depuis le cœur de ville ou depuis le quai d'Alsace ou le quai de Lorraine, de déambuler sur une promenade agréable, jusqu'au théâtre scène nationale, jusqu'au stade, jusqu'à l'aréna, de traverser la ville par son joyau, le canal de la Robine.
C'est un quartier qui a pris une importance considérable et stratégique finalement, parce qu'il rassemble un certain nombre d'équipements forts.
Ce sont les équipements majeurs qui contribuent au rayonnement de la ville. C'est un quartier qui est placé à une sortie d'autoroute, dans une route départementale qui ouvre également sur les plages. Il est à proximité immédiate du cœur de ville. Il est desservi également par la rocade Est. Donc c'est un quartier qui était très fluide et qui comprend effectivement un nombre important d'équipements structurants pour la ville.
Alors passons, si vous le voulez bien, Bertrand Malquier, au Grand Narbonne, à l'agglomération. On ne peut pas évoquer tous les chantiers de la ville, mais on en gardera pour d'autres fois. Il y a un jumelage qui se profile avec une ville ukrainienne qui s'appelle Mykolaïv. Alors c'est une grande ville, c'est un grand port. D'habitude, les jumelages se font à taille égale à peu près des villes. Mais là, pourquoi envisager ce jumelage-là ?
Alors c'est à l'initiative de Gilles Bourguignon et l'association Narbonne-Ukraine, qui est une association humanitaire qui vient en aide aux sinistrés de la guerre en Ukraine. Après des échanges, on a souhaité aller plus loin qu'un simple jumelage. C'est un accord de coopération qui a été signé entre trois entités, le Grand Narbonne, la ville de Narbonne et la ville de Mykolaïv, qui fait à peu près 10 fois la taille de Narbonne, mais qui est aussi un port stratégique sur la mer Noire en Europe. Et donc on a de suite fait le lien avec notre port de Port-la-Nouvelle, le port dont les investissements de la région ont permis d'avoir un port qui s'ancre sur notre territoire et qui est tourné, résolument tourné vers l'avenir, et de préparer l'après-éolien, l'après-hydrogène, avec des futures collaborations entre le deuxième port d'Ukraine et le port de Port-la-Nouvelle. Donc ce sont des échanges, l'accord de coopération, c'est un accord d'espérance aussi quelque part, puisque c'est un accord à moyen et long terme, c'est un accord qui s'envisage dès l'après-guerre pour travailler. Vous savez que l'Ukraine et le grenier s'est réallié d'Europe, mais pas que. Il y a d'autres industries qui peuvent permettre des échanges, toujours dans la volonté du Grand Narbonne d'être attractif économiquement, d'attirer, de créer les emplois de demain sur notre territoire.
Voilà, donc il s'agit, l'intérêt de ce jumelage, ce sont les deux ports, en quelque sorte, pour l'avenir.
C'est ça, c'est le point de départ, mais après, on s'est aperçu que nous avions d'autres échanges à mener sur des questions qui touchent à la culture, au sport également. Figurez-vous que la ville de Mykolaïv pratique, des habitants de Mykolaïv, des jeunes, pratiquent le rugby.
Voilà, et le travail fait par Gilles Bourguignon, qui est
c'est l'ambassadeur. Hein,
qui est un travail colossal à ce niveau-là, il faut le rappeler et le souligner également. Oui. Alors, parmi les choses qui courent dans l'actualité, il y a de temps en temps la pollution de l'eau par ce qu'on appelle les PFAS, qui sont, paraît-il, des polluants qualifiés d'éternels, dont on a du mal à se débarrasser, et qui apparaissent parfois dans l'eau. Le cas s'est présenté à Narbonne, dans un forage qui s'appelle le Ratier. Des explications, monsieur Malquier.
Oui, donc, c'est... alors, déjà, en amont, je veux rappeler que, depuis les années 2000, la ville de Grand Narbonne, qui était la CAN à l'époque, la communauté d'agglomération de la Narbonnaise, ont porté des efforts importants pour permettre, au début des années 2000, jusqu'au début des années 2000, il y avait l'été quelques coupures d'eau potable sur la ville de Narbonne. Aujourd'hui, on n'a plus jamais connu ça.
Le délégataire est Veolia.
Oui, aujourd'hui, le délégataire est Veolia. C'était Vivendi à l'époque, environnement. Oui. Donc des investissements forts ont été faits pour permettre de sécuriser la ressource en eau. Et aujourd'hui, nous en sommes enchantés, d'autant plus dans une période où il y a une pénurie de cette denrée. Mais nous avons un service au Grand Narbonne qui contrôle de façon permanente avec des organismes extérieurs la qualité de nos eaux. C'est des obligations légales et on va au-delà pour s'assurer d'une qualité optimale de l'eau. Et nous avions détecté la présence, bien en dessous des seuils réglementaires et bien évidemment des seuils de dangerosité, la présence de PFAS, donc de polluants éternels. C'est des polluants qui sont essentiellement issus sur du textile, par exemple, sur l'eau. Donc nous avons investi avec notre partenaire, l'Agence de l'eau, et l'État, pour bien sécuriser. Et nous avons été un des pionniers à installer des filtres à charbon actif sur ce forage du Ratier pour renforcer la qualité de nos eaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une eau qui est parfaitement limpide, en tout cas, qui est parfaitement propre à la consommation, sans aucun danger sur notre territoire.
Mais c'est un processus qui peut être appelé à se renouveler.
On est en veille permanente. Hein. Franchement, je vous le dis comme on me l'a expliqué. On détecte de plus en plus de nouveaux polluants. Je parle pas Narbonne, je parle dans le monde entier. Donc les chercheurs trouvent en permanence de nouvelles sources de pollution et des présences qui sont révélées en fonction des avancées scientifiques. Donc nous avons une veille permanente pour s'assurer que les usagers aient l'eau la plus propre possible et ça nécessite bien des investissements. Mais c'est important et aujourd'hui, quand on voit que certaines communes, certaines agglomérations connaissent des coupures d'eau, tous les étés maintenant depuis 2 ans, on parle de Durban-Corbière, le Grand Narbonne d'ailleurs les aide, accompagne dans la démarche pour les approvisionner en eau. Voilà, nous on n'est pas du tout, parce que nous avons su faire les investissements en amont, nous avons sécurisé la ressource en eau et pour poursuivre cette sécurisation, eh bien nous optimisons nos traitements, changeant nos filtres pour améliorer en permanence cette ressource rare qu'est l'eau.
Voilà, deux points importants, on les évoque pas tous, on n'a pas le temps bien sûr, mais deux points importants sur l'agglomération du Grand Narbonne. On marque, Bertrand Malquier, une seconde pause.